autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation pour nous aventurer dans les mystères mathématiques aujourd'hui. Énigmes résistantes, paradoxes bizarres, équations impossibles à résoudre. Pourquoi tant de mystères en mathématiques et pourquoi les mathématiciens n'aiment rien tant qu'en engendrer de nouveaux? Des mystères parfaits à l'œuvre aujourd'hui dans tous nos codes secrets développés par la cryptographie, plongés à la source de tous ces mystères, de toutes ces inconnues avec notre invité, le professeur Jean-Paul Delahaye. Autour de la question « Pourquoi tant de mystères parfaits en mathématiques ?» Bienvenue. Bonjour Jean-Paul Delahaye.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager un peu de ces mystères. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Lille, où vous avez enseigné les mathématiques et l'informatique. Vous êtes chercheur au Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique du CNRS à Lille. Et vous êtes aussi un formidable passeur de sciences dans votre rubrique mensuelle Logique et Calcul, dans le magazine Pour la Science, et dans vos ouvrages. Le dernier en date, paru chez Belin, s'intitule Mathématiques et mystères. Alors pourquoi les mathématiciens comme vous, Jean-Paul Delahaye, aiment-ils tant les mystères jusqu'à même en créer toujours de nouveaux?
Ben parce que je pense que tout le monde aime les mystères. Et quand on manipule les objets mathématiques, d'abord, en soi, ils sont un petit peu mystérieux. Mais souvent, ils recèlent des mystères. C'est-à-dire, on se pose naturellement des questions à leur sujet. Par exemple, à propos des nombres entiers, est-ce qu'il y a une infinité de nombres premiers? Est-ce qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux? Ce sont des nombres premiers qui se suivent à écart de deux unités, comme 11 et 13. Et très rapidement, on rencontre des difficultés. C'est-à-dire, on n'arrive pas à résoudre la question qu'on se pose alors qu'elle semble simple. Et donc ça, c'est un mystère. C'est ce qu'on va appeler, par exemple, une conjecture. Et puis, il y a un autre aspect des mystères en mathématiques qui est devenu de plus en plus important avec les développements technologiques, c'est tout ce qui tourne autour de la cryptographie. C'est-à-dire, en fait, c'est l'art de créer des mystères.
Cette fois-ci, c'est pas seulement d'essayer d'en résoudre, mais d'en créer.
C'est plus ceux qu'on trouve naturellement en s'intéressant aux objets mathématiques, ce sont ceux qu'on fait exprès de créer pour justement pouvoir communiquer secrètement avec quelqu'un ou signer de manière sûre un document et que personne ne puisse signer à votre place.
Les fameux codes secrets.
Voilà, exactement.
Et là, c'est de la création de mystères. Alors, vous citez en exergue de ce livre le prix Nobel de physique Richard Feynman: de la connaissance naissent des mystères toujours plus grands, il ne faut jamais craindre les réponses décevantes, au contraire plein de joie et de confiance, nous continuerons à retourner chaque pierre à la recherche d'étrangetés toujours plus merveilleuses qui nous conduiront aux questions et aux mystères les plus fantastiques. De plus en plus de mystères finalement, plus on creuse, c'est ça?
Oui, alors au fur et à mesure que les mathématiques se développent et que les mathématiciens travaillent, bon, ils réussissent à résoudre certains mystères, heureusement. Ils arrivent à démontrer par exemple qu'il y a une infinité de nombres premiers. Mais il y en a aussi qui résistent, et puis comme ils introduisent de nouvelles idées, de nouveaux concepts, mais ils découvrent de nouveaux problèmes. Et puis finalement, moi, je crois qu'on peut dire que les nouveaux problèmes irrésolus, donc les nouveaux mystères, sont plus nombreux que ceux qu'on arrive à résoudre.
Donc c'est une infinité de mystères, hein, finalement.
Donc finalement, au fur et à mesure du travail, certes, la connaissance progresse, les mathématiques progressent, mais les choses inconnues en mathématiques progressent. Il y a des livres entiers qui sont composés uniquement de conjectures. C'est-à-dire, on énumère des conjectures, on donne un certain nombre d'informations à leur sujet, et puis voilà, il y a des centaines de conjectures, donc de problèmes que les mathématiciens cherchent à résoudre et ne résolvent pas forcément rapidement.
Autour de la question pourquoi tant de conjectures, de mystères et de problèmes insolubles en mathématiques, je propose Jean-Paul Delahaye de commencer par nous arrêter sur un nombre fascinant auquel vous avez d'ailleurs consacré un ouvrage, un nombre infini et donc toujours à explorer, c'est pi, qui continue aujourd'hui encore d'interroger les mathématiciens et les informaticiens. Une histoire sans fin dont le début est raconté sur le site d'Univers Science dans ce petit conte mathématique réalisé par Clémence Gandillot et Aurélien Roqueland, extrait.
L'histoire de pi est aussi longue que les chiffres qui s'alignent derrière la virgule. Nous sommes à Samarcande, en Perse, en Asie centrale, en 1420. Al-Kashi est professeur de mathématiques et d'astronomie dans la grande école fondée par le souverain Ulugbek. Bien que tout à fait sain d'esprit, Al-Kashi a tendance à faire des mathématiques partout et tout le temps. Il s'intéresse en particulier aux propriétés du cercle. Mettons qu'un épicier lui rende la monnaie en pièces bien rondes, aussitôt il divise leur circonférence par leur diamètre et il trouve 3,141. Ou 3,142, ça dépend. Sauf qu'Al-Kashi n'est pas homme à se contenter de si peu de précision. 3,141 ou 3,142, il faudrait savoir. Pour être plus précis, il me faudrait un concept, une idée, quelque chose de bien solide, méthodique, un raisonnement carré, quoi. Quelque chose qui tienne debout, qui me permettrait de faire tenir le cercle en place. Je pourrais l'enfermer dans un carré. Ou dans deux carrés. J'aurais un cercle inscrit dans un carré circonscrit qui comprendrait un carré inscrit. Si je comprends bien, mon cercle serait compris. Si chaque segment est ainsi divisé à chaque fois et que je réitère à l'infini, il y a bien un moment où les deux polygones auront quasiment la même surface, non ? En mathématiques, parfois le résultat est moins intéressant que ce que l'on débusque sur son chemin. Pi a vu émerger de nombreuses questions et de drôles de réponses.
Et ce n'est pas fini, Jean-Paul Delahaye. Les décimales de Pi continuent d'interroger mathématiciens et informaticiens et de susciter des records, hein, c'est ça ?
Oui, alors il y a quelque chose à propos des records de calcul de Pi qui est tout à fait étonnant et qui illustre à la fois les progrès technologiques et les progrès mathématiques. C'est que pour arriver à une centaine de décimales de Pi, il a fallu attendre le début du XVIIIe siècle. Et puis après, on est arrivé à 1000 au cours du XIXe siècle. Et puis au cours du XXe siècle, les choses se sont précipitées. On est arrivé à 1 million vers 1950, la date exacte.
1 million de décimales de Pi.
Mais on a été beaucoup plus loin. Au cours du XXe siècle toujours, on a atteint 1 milliard et aujourd'hui on est aux alentours de plusieurs milliers de milliards.
Milliers de milliards, voilà. De chiffres après la virgule,
voilà,
de Pi,
exactement.
Hein, c'est ça.
Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est amusant à propos de ces calculs. Donc la rapidité, c'est ça que je voulais dire en premier, c'est que la rapidité des progrès s'est accélérée.
C'est-à-dire exponentielle,
voilà,
en fait.
On a progresser plus vite qu'on ne progressait avant. C'est pour passer de 10 à 100, il avait fallu 15 siècles, et puis maintenant, on est passé à 1 million, à 1 milliard, à 1000 milliards en quelques dizaines d'années. Et donc, oui, ces décimales sont mystérieuses pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles apparaissent comme si elles étaient tirées au hasard. C'est-à-dire, si on dispose d'un dé à 10 faces et qu'on le lance, on obtient des séries de chiffres où il va y avoir à peu près un chiffre sur 10 qui va être un 1, un chiffre sur 10 qui va être un alors, si on compte le 0, un 0, etc. Et dans Pi, c'est la même chose. Et ça, c'est une propriété qu'on aimerait bien démontrer, par exemple. Ben, on ne sait pas la démontrer. Voilà, ça, c'est un exemple de mystère. On ne sait pas démontrer que la fréquence des zéros est un dixième, que la fréquence des 1 est un dixième, et c'est un problème qui est réellement très difficile, très très difficile. Or, quand on calcule les milliards de décimales que j'évoquais, ben on s'aperçoit que oui, il y a à peu près un dixième de 0, un dixième de 1, etc.
Et même quand on en calcule autant, c'est pas pour ça qu'on arrive à comprendre...
Non, parce que quand on en a calculé même 1000 milliards, ben on n'en a toujours qu'un nombre fini. Et il se pourrait que ça change. Alors, ça semble improbable, ça semble déraisonnable d'imaginer que ça va changer à partir de 1000 milliards. Donc on pense que ce n'est pas le cas, donc on pense qu'effectivement il y a bien un dixième de zéro, etc. Mais aujourd'hui personne ne sait le démontrer et on n'est pas tout à fait sur le point de le démontrer. C'est vraiment quelque chose qui est difficile, c'est un obstacle terrible qu'on rencontre dans les mathématiques, dans ce qu'on appelle l'arithmétique.
Donc on n'a toujours pas compris le nombre pi qui continue de fasciner, pourquoi ? Parce que si on le retrouve, parce que quelque part autour de pi on pourrait dire que le monde est peut-être écrit en langage mathématique.
Oui, alors une des caractéristiques de pi c'est qu'on le retrouve partout. Alors évidemment, on le retrouve dans un cercle, mais quand vous allez considérer par exemple la somme des inverses des carrés, des nombres entiers, 1 plus 1 quart plus 1 sixième, excusez-moi, 1 plus 1 quart plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur 4 au carré, etc., eh bien la somme de cette suite infinie, de cette série infinie, c'est quelque chose qui est lié à pi, c'est pi 2 sur 6. Pourquoi pi alors que ça n'a aucun rapport avec le cercle ? Voilà, c'est une question. Et cette constante pi se retrouve dans des tas de problèmes différents en mathématiques qui n'ont pas forcément trait à la géométrie. Et donc il y a une sorte de présence, d'omniprésence, d'ubiquité du nombre pi en mathématiques qui est aussi fascinante. Il y a d'autres nombres qui ont cette propriété-là, mais aussi fortement que pi, c'est difficile.
Et puis on le retrouve partout, notamment autour des variations composées par le musicien Jean-Philippe Fontani, qu'on écoute tout de suite sur RFI. Thank you. Jean-Philippe Fontani sur RFI, les variations autour du nombre pi, elles vous inspirent, c'est vous qui nous avez soufflé, Jean-Paul Delahaye.
Oui, parce que je connais Jean-Philippe Fontani. Mais je voulais préciser quelque chose à propos de cette musique. Il ne faut pas croire, quand on entend cette musique qui est très agréable à écouter,
ah, oui.
il ne faut pas croire qu'on écoute exclusivement les décimales de pi. Mmh. En fait, ce qui s'est passé pour la composition de ce morceau, c'est que d'abord, Jean-Philippe Fontani a recherché à avoir les décimales, les chiffres de pi en basse 7, parce que la musique, c'est plutôt avec 7 notes qu'avec 10. Et utilisant donc les premiers chiffres en basse 7 de pi, il s'est imposé des contraintes. En fait, dans chaque mesure, il a demandé à ce que la première note soit, enfin, l'arpège construit sur, qui va être utilisé dans cette mesure soit ce qui est déterminé par pi, mais après il a fait ce qu'il a voulu. Et il a rendu ça
c'est
agréable,
hein, oui.
en variant, en allant plus vite, etc. Et donc il s'est donné une certaine liberté à partir d'une contrainte qui est dans pi. Donc c'est effectivement pi qu'on entend, mais on entend pi plus le talent de Jean-Philippe Fontani.
Autour de la question, pourquoi tant de mystères mathématiques? Les mathématiques, vous l'avez dit, Jean-Paul Delahaye, ne sont pas seulement source de mystères, elles en créent aussi, enfin les mathématiciens en créent aussi volontairement pour générer du secret. C'est la cryptographie, la science du secret qui est à la fois en plein essor et en pleine maturité aujourd'hui.
Alors oui, depuis la Seconde Guerre mondiale, particulièrement à cause du développement des réseaux, on a besoin de communiquer et on a besoin de communiquer éventuellement en cachant des informations. Seul celui qui envoie le message et celui qui le reçoit doivent pouvoir le déchiffrer. Et ce qui se passe entre le point de départ et le point d'arrivée du signal peut être espionné par n'importe qui. On sait bien comment ça se passe avec les attaques américaines sur tout ce qui est réseau et leur écoute générale, y compris de Merkel ou de Hollande. On a besoin de méthodes pour cacher, on a besoin de méthodes qui soient aussi sûres que possible. Alors, cette situation n'est pas tout à fait nouvelle, puisque dans les armées, on avait besoin aussi de codes cryptographiques.
Oui, ça fait longtemps qu'on se sert de codes secrets.
Mais c'est devenu tellement plus important et tellement plus quotidien que la science mathématique de la cryptographie a beaucoup progressé depuis le début du XXe siècle et en particulier aussi depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a vraiment énormément de progrès qui ont été faits et en particulier on a découvert quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est ce qu'on appelle les codes à double clé. C'est-à-dire, quand vous allez chiffrer un message, ce qui se passait avant, c'est que vous deviez disposer d'une clé, donc une sorte d'information secrète que vous partagiez avec celui qui recevait le message, et le fait qu'il ait cette information secrète, ça lui permettait de déchiffrer le message que vous aviez chiffré avec cette clé. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il existait des systèmes à double clé, c'est-à-dire que vous allez utiliser une certaine clé pour chiffrer, et pour déchiffrer, il en faudra une autre. Et ça permet des choses tout à fait extraordinaires, comme par exemple de chiffrer des messages sans avoir besoin de rencontrer celui à qui vous avez envoyé le message avant pour échanger la clé.
Donc il va être capable de le déchiffrer sans même avoir la clé, une autre clé.
Voilà, vous allez lui communiquer une clé qui lui permettra de déchiffrer, et lui seul pourra déchiffrer le message que vous avez chiffré.
Pourquoi chiffrer les informations parfois ne suffit pas? Ce sont des questions de sécurité informatique absolument essentielles et fondamentales aujourd'hui, qui ont même donné lieu à un colloque au CNRS. Je propose d'écouter l'éclairage de Stéphanie Delaune. Elle est chargée de recherche au CNRS au sein du laboratoire de recherche en informatique et systèmes aléatoires de Rennes, et elle est interrogée par Charlie Dupiau.
Alors concrètement, en fait, on utilise tous du chiffrement, donc vous en apercevez peut-être pas, mais si vous faites une transaction bancaire sur un site internet, vous ne voulez pas que votre code de carte bancaire passe en clair sur le réseau. Donc il va y avoir un protocole qui est utilisé sur ce site internet et qui va être là justement pour chiffrer vos données bancaires, par exemple. Avant d'envoyer vos données, on va justement appliquer ce chiffrement pour les protéger.
Quel type d'attaque, par exemple?
Alors nous, c'est ce qu'on appelle les attaques logiques. Autrement dit, vous avez un message chiffré, vous ne savez pas le déchiffrer, puisque a priori, l'algorithme utilisé est robuste, mais vous allez, en l'envoyant à une personne ou en l'envoyant sur Internet à un autre protocole, essayer d'obtenir le contenu de ce chiffrement. Dans le cadre du passeport électronique, il y avait jusqu'à très récemment encore une attaque sur le passeport électronique dans son implémentation française. Et là, c'était une attaque en fait qui permettait de tracer le porteur d'un passeport. Il suffit d'avoir un petit lecteur de carte ou même de mettre une application sur un téléphone mobile. Cette attaque était due en fait à des messages d'erreur trop précis émis par le passeport. Le passeport électronique implémente un certain protocole pour établir une clé afin de chiffrer vos données. Et dans l'implémentation française, des messages d'erreur un peu trop précis sont émis en cas d'échec. Et en fait, en analysant ces messages d'erreur, il était alors possible de tracer le porteur d'un passeport français. Si vous voulez éviter ce genre de choses, en fait, il faut vraiment, j'ai envie de dire, ranger votre passeport entre deux feuilles d'aluminium. Et dans ce cas-là, la communication, en fait, n'est plus possible.
Vous voulez réagir à cet éclairage de Stéphanie Delaune, Jean-Paul Delahaye ?
Oui, la cryptographie, c'est quelque chose qui est à la fois mathématique, mais aussi technologique. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qui sont très proches des matériels, des puces, etc. Et en particulier, il y a eu des attaques des chiffrages qui sont utilisés dans les cartes à puces en écoutant et en mesurant les temps de réaction des cartes aux informations qu'on leur envoie et aux informations qu'elles renvoient.
C'était le matériau qui parlait, en
oui,
fait.
Oui, on pouvait, en analysant les temps de réponse, deviner certaines informations qui, après, permettaient éventuellement de déchiffrer complètement les codes qui étaient gardés par cette carte.
Mais la question de l'inviolabilité de ces codes, de ces chiffres, est-ce que ça fait partie des mystères mathématiques ou est-ce qu'on peut avoir des codes inviolables ? Est-ce que
Il existe des codes inviolables qui sont connus depuis assez longtemps. C'est ce qu'on appelle les codes par masque jetable. Alors, ils ont un inconvénient, ces codes, c'est que les clés qu'on utilise sont aussi longues que les messages qu'on veut envoyer.
Ouais,
mais ce n'est pas totalement impossible de les utiliser. Il faut simplement échanger des très longues clés avec ses correspondants avant de décider de communiquer avec eux. C'est ce qui était fait d'ailleurs quand les chefs d'État communiquaient par le téléphone rouge entre l'URSS et les États-Unis.
Ils échangeaient comment ils étaient codés.
Voilà, ils utilisaient ce système. Et alors ce système, il est démontré inviolable. Mais il n'est pas commode. Alors, enfin, en général, on ne l'utilise pas. Et on utilise des systèmes où les clés sont beaucoup plus courtes que les messages qu'on envoie. Et à ce moment-là, il y a toujours une question qui se pose. C'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une façon de casser la logique arithmétique du code pour déchiffrer ce qui s'envoie, ce qui est envoyé et ce qui est chiffré? Et la réponse, c'est... on pense que non, dans un certain nombre de cas. On a des raisons un peu sérieuses de croire que non. Mais les démonstrations complètes, quand il s'agit de clés qui sont courtes, n'existent pas. Voilà. Et donc, c'est plus une expérience, c'est plus un état de l'art qui fait que les cryptologues disent ce code-là est très certainement inviolable, ou dans l'état de technologie...
Jusqu'à ce qu'il soit violé, quoi, voilà. En gros. Enfin, on peut le dire comme ça.
Et alors, c'est un peu inquiétant parce que... toute l'histoire de la cryptographie est remplie de situations où des gens utilisent un code pensant qu'il est absolument inviolable, et puis pendant ce temps-là, leurs ennemis lisent tous les messages codés qui s'envoient. Ça s'est passé en particulier pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les codes allemands qui étaient basés sur l'utilisation de la machine Enigma. Donc la situation d'aujourd'hui est assez inconfortable d'une certaine façon, du fait de cette non-démonstration de l'inviolabilité des codes qu'on utilise.
On continue de s'interroger sur l'inviolabilité ou non de cette science du secret, la cryptographie et autres mystères mathématiques dans 3 minutes. Vous restez bien sûr avec nous, Jean-Paul Delahaye. On se retrouve juste après le flash d'info autour de toutes ces inconnues, énigmes et paradoxes mathématiques, avec bien sûr la question du hasard qui entrera en jeu. A tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie en compagnie du professeur de mathématiques et d'informatique Jean-Paul Delahaye, qui vient de publier aux éditions Belin « Mathématiques et mystères » autour de la question « Pourquoi tant de mystères parfaits en mathématiques ?» depuis ceux que les mathématiciens eux-mêmes cherchent à résoudre, en passant par ceux qu'ils créent pour nos codes secrets, tous nos codes secrets. On s'en amuse avec un autre professeur, le professeur Rollin sur RFI.
Comment faire pour retenir les 4 chiffres qui constituent le code secret de ma carte bancaire? C'est un problème, un vrai problème pour tout le monde. Alors voici une astuce très précieuse que je vous donne. Composez une phrase de 4 mots, chaque mot ayant un nombre de lettres correspondant à chaque chiffre de votre code secret, et retenez cette phrase. Par exemple, le code 2539 hein, se traduira très bien par la phrase « je trace une diagonale », qui est très facile à retenir. Hein. Je trace une diagonale, je deux lettres, trace cinq lettres, une, trois lettres, diagonale, neuf lettres, je trace une diagonale. Hein. 6, 7, 5, 2, Jérôme conduit comme un con. En enlevant les trois lettres qui correspondent au mot con, et qui ne sert à rien sinon à terminer logiquement la phrase. 1, 2, 2, 2, j'ai eu la diarrhée. En enlevant là encore les 8 lettres de diarrhée, qui ne servent à rien non plus et qui par-dessus le marché n'évoquent pas un bon souvenir. Mais il y a un inconvénient de taille, c'est que si devant le distributeur de billets, vous murmurez pour vous rappeler votre code, un malveillant peut vous entendre et en déduire votre code secret. J'ai donc imaginé de composer une phrase de 4 mots, mais chaque mot comportant alternativement une lettre de plus et une lettre de moins que le code correspondant. Hein. Par exemple, la phrase « t'auras du boudin » qui semble correspondre au code 1, 5, 2, 6 correspond en fait au code 1 plus 1, 5 moins 1, 2 plus 1, 6 moins 1, 2, 4, 3, 5. Bon, mais cette ruse, elle aussi, risque de s'éventer. Je suggère donc pour plus de sécurité de composer un mot de 4 lettres. Chaque lettre correspondant à son rang chiffré dans l'alphabet arrondi à la dizaine inférieure et diminué de la moitié du rang de la lettre suivante. Ainsi, le code 4567, par exemple, se traduira au terme d'un calcul très simple, hein, par le mot TARZ, T-A-R-Z, TARZ.
Est-ce que le mathématicien que vous êtes veut réagir au délire du professeur Rollin, Jean-Paul Delahaye?
En fait, il évoque un problème qui est très sérieux, c'est celui des mots de passe qu'on utilise tous les jours. On en a chacun une dizaine au moins, qu'il faut retenir sans les écrire sur un papier, sans les mettre sur son ordinateur, dans un fichier même caché. Et c'est un grave problème, parce que si on utilise des mots de passe trop simples, ce qu'interdisent maintenant la plupart des sites internet, par exemple, n'utilisant que des minuscules et puis de 5 lettres, il sera assez facile, par une attaque qu'on dit exhaustive, d'essayer tous les mots de 5 lettres n'utilisant que des minuscules et de retomber assez rapidement dessus. Donc il faut utiliser, et c'est vraiment un conseil que tout le monde doit respecter, il faut utiliser des mots de passe assez longs utilisant des majuscules, des minuscules et des chiffres et des symboles spéciaux, parce qu'à ce moment-là la combinatoire devient trop grande pour qu'une attaque exhaustive par essai systématique de tous les codes possibles soit possible.
Et essai systématique de tous les codes possibles, ça veut dire aussi qu'il y a aujourd'hui des calculateurs absolument gigantesques qui sont capables de calculer et de faire des tentatives justement presque à l'infini.
Oui, alors il y a quand même plusieurs cas. Une carte bleue, si vous vous trompez 3 fois, elle est bloquée. Donc il y a un certain nombre de sites qui bloquent aussi de la même façon quand on a fait plusieurs tentatives infructueuses. Mais c'est pas le cas de tous les mots de passe utilisés, de tous les sites. Et à ce moment-là, ces attaques exhaustives peuvent tout à fait fonctionner. Et c'est comme ça que les hackers trouvent des mots de passe. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez amusant. Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver ça. Il y a les listes des mots de passe les plus utilisés. Et par exemple, un des mots de passe les plus utilisés, que je reconnais avoir utilisé, c'est AAAA. 4A. Évidemment, c'est facile de s'en souvenir, seulement c'est aussi un mot de passe qui est extrêmement faible et qu'il faudra. Qui sera facilement repéré. Donc, malgré ça, il y a des gens qui continuent toujours à utiliser des mots de passe faibles et qui ne sont pas forcément filtrés par les sites internet qui demandent ces mots de passe. Et à ce moment-là, l'utilisation d'une liste de mots de passe les plus courants permet aux hackers de trouver rapidement au moins certains mots de passe de certains comptes qu'après, évidemment, vont se trouver piratés.
D'où l'intérêt de développer cette science du secret de manière de plus en plus mieux protégée. Il y a plusieurs chapitres dans votre ouvrage hein, sur les mathématiques et mystères, sur cette science du secret qu'est la cryptographie. Il y a notamment un chapitre sur comment déléguer un calcul sans divulguer ces données.
Voilà, alors ça c'est un vrai problème dont on a pensé qu'il ne pouvait pas être résolu. On pensait qu'il était impossible à résoudre. C'est le problème suivant. Voilà, vous avez une base de données personnelle sur votre ordinateur et vous voulez faire des calculs dessus. Mais vous voulez absolument... Et puis, c'est des calculs qui sont très longs, qui sont très coûteux. Donc, vous voulez les faire à l'extérieur par un service qui va faire ces calculs. Mais seulement, aujourd'hui, quand on veut faire ça, évidemment, on est obligé de communiquer ces données. Et ça peut être embêtant pour une banque ou même pour un particulier qui... Bon. Et donc, on se posait la question, est-ce qu'il serait possible de chiffrer les données qu'on va envoyer au site qui va faire les calculs, qu'il fasse un certain calcul, mais qui ne va pas être le même que celui que nous on aurait fait, mais un autre calcul déduit de celui qu'on aurait fait, qu'il vous renvoie les données, résultat qu'il a obtenu, et que vous, en déchiffrant ces données obtenues, vous puissiez avoir le résultat du calcul qui vous intéressait. Et
donc, c'est-à-dire que lui ne sache pas au fond quel calcul il a fait, ou quels sont vos chiffres à vous.
Lui aura fait des calculs, qui ne seront pas ceux exactement que vous lui demandiez, mais d'autres qu'il aura traduits parce que le protocole va faire ça. Et quand il aura fait les calculs, il ne saura rien de vos données. Et donc, vous aurez délégué des calculs sans lui communiquer vraiment vos données.
Et aujourd'hui, on peut faire ça.
Et alors, aujourd'hui, on a trouvé des méthodes pour faire ça. Alors, ces méthodes, il faut le reconnaître, aujourd'hui, elles ne sont pas réellement praticables massivement, en tous les cas, parce que le calcul que va faire le site sur lequel on va déléguer les calculs va être beaucoup plus volumineux que celui qu'on aurait fait si on n'avait pas chiffré les données.
Donc, ce n'est pas encore rentable, mais on sait comment faire.
Voilà, ce n'est pas encore rentable, mais ça peut servir quand même, par exemple, à organiser des votes secrets, puisque là, les calculs sont simples. Et malgré tout, c'est des calculs comme ça qui permettent de comptabiliser des votes et faire des choses comme ça. Donc, ce qu'on appelle ce chiffrage homomorphique est déjà utile. Et puis, comme on progresse dans la mise au point des protocoles basés sur cette idée-là, eh bien, ça finira par nous permettre de déléguer des calculs sans avoir à divulguer nos données. Ça sera
formidable. De l'utilité, donc, de cette science du secret. Alors, à partir de recherches mathématiques assez abstraites et de mystères parfaits, on peut aussi créer de la valeur. Par exemple, les bitcoins, ces monnaies cryptographiques qui, aujourd'hui, valent quoi ? Plusieurs milliards d'euros
Alors, aujourd'hui, le bitcoin, effectivement, c'est une création des mathématiques et de la technologie, il faut quand même bien le dire. La rapidité des réseaux, de la fiabilité des réseaux, etc. Et aujourd'hui, cette monnaie sans autorité centrale de contrôle, elle vaut à peu près 15 milliards de dollars aujourd'hui. C'est-à-dire toutes ces unités
qui sont en circulation.
Et très récemment, puisque c'est tout à fait dans l'actualité, le bitcoin vient de passer la barre des 1000 dollars. Un bitcoin vaut 1000 dollars. Alors, c'est tout à fait extraordinaire, puisqu'on n'imaginait pas qu'il soit possible d'émettre une monnaie numérique sans que personne n'en ait le contrôle. Quand on émet des euros, c'est la Banque européenne qui contrôle cette émission et qui surveille les billets, qui éventuellement détecte les faux billets, etc. Pareil pour le dollar, il y a une autorité. Et cette idée qu'on puisse émettre une monnaie sans que personne ne la contrôle, et qu'elle soit contrôlée, on va dire, collectivement par le réseau, sans que personne ne puisse décider d'en émettre un peu plus ou un peu moins, ou d'en créer des faux, etc. C'est une idée qui est devenu possible grâce à la cryptographie. Voilà. Et ce qu'on appelle les réseaux pair à pair. Et c'est effectivement une nouveauté, donc de 2009. Les bitcoins ont été créés en 2009. Dans un premier temps, les gens étaient très sceptiques. Ils pensaient que ça allait s'effondrer, qu'ils allaient être victimes d'une attaque et que le truc allait valoir zéro, que les bitcoins allaient retomber vers zéro. Ça s'est pas produit. Aujourd'hui, le bitcoin résiste et il vient de battre quasiment un record absolu avec 1000 dollars. C'est un succès de la cryptographie, c'est un succès des mathématiques.
C'est presque un succès mystérieux. Je propose maintenant un petit détour, alors non pas du côté des bitcoins, mais dans l'exposition où il y a peut-être aussi de la monnaie sonnante et trébuchante, dans l'exposition Faites vos jeux quand les maths s'en mêlent. C'est une exposition sur le thème du hasard au Palais de la Découverte à Paris. Pour comprendre qui gagne à tous les coups, je propose d'écouter Robin Jamais, qui est le médiateur scientifique de l'unité de mathématiques du Palais de la Découverte, commissaire également de cette exposition, interrogé par Alice Milot.
Ceux qui connaissent la loi des grands nombres très très bien, qui utilisent cette loi des grands nombres, qui utilisent la connaissance mathématique du hasard, sans conteste, c'est tous les gens qui organisent des jeux de hasard, comme les casinos, comme la Française des Jeux. Et donc là, on a une roulette de casino, justement. Je vais prendre le cas le plus simple de la roulette. On peut parier, par exemple, sur pair ou impair.
Donc je mets le jeton sur le 12, et donc vous allez faire donc tourner la roulette.
Ouais, on peut faire rouler la roulette, voilà. Donc 25, c'est perdu. Si je parie sur pair et que je gagne, je remporte le double. Donc ça veut dire que je gagne ce que j'ai mis. Et si c'est impair, je perds ma mise. Donc en gros, on peut s'imaginer, si on a un grand nombre de joueurs, que en gros la moitié va jouer sur impair, la moitié va jouer sur pair. Donc le casino va uniquement prendre l'argent de ceux qui ont perdu et le donner à ceux qui ont gagné. Lui, il ne gagne pas d'argent. Sauf que il y a une case qui s'appelle 0, qui est ni pair ni impair. Donc une fois sur 37, le casino gagne tout. Donc ça veut juste dire que lui, il sait combien il y aura de parties jouées dans la journée, et il sait que en moyenne une partie sur 37, il gagne la mise de tous les joueurs. Donc, dès le début de la journée, juste en sachant combien de clients il va avoir, il peut estimer l'argent qu'il va gagner. C'est hyper simple. Et c'est pareil pour tout, je veux dire, vous regardez le loto, ben le loto, on a une chance sur 19 millions de gagner le gros lot, mais quand on gagne le gros lot, on ne gagne pas 19 millions fois le prix du billet. Donc bah, la Française des Jeux gagne de l'argent, on est au courant, je veux dire, hein, c'est pas un truc caché, c'est pas, ils vont pas m'en vouloir de dire ça. Ils sont pas là pour distribuer de l'argent, ils sont là pour en gagner, tout le monde est au courant. Bah, ça fonctionne comme ça. Alors après, les gens font ce qu'ils veulent. Il y a une citation courante chez les matheux qui est de dire que le loto est un impôt sur les gens qui ne connaissent pas les probabilités. Bon, après, les gens font bien ce qu'ils veulent. Je veux dire, on peut se payer un tour de manège, on peut se payer un billet de loto, mais on va perdre. On va se payer le petit frisson au moment du tirage. Mais il faut savoir qu'on perd de l'argent quand même.
Voilà qui est dit et démontré dans cette exposition « Faites vos jeux » quand les maths s'en mêlent au Palais de la Découverte à Paris jusqu'au 27 août. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Est-ce qu'il y a un hasard en mathématiques?
Alors oui, le hasard est un sujet d'étude mathématique infini. La théorie des probabilités, c'est une théorie qui permet de comprendre le hasard et d'en avoir une certaine maîtrise. Et en cryptographie, je vais revenir sur la cryptographie parce que une chose qui est étonnante, c'est que on découvre encore des choses concernant le hasard. Et par exemple, je vais donner un exemple, mais il y en a bien d'autres qui lient la cryptographie au hasard. Quand on veut, par exemple, faire un tirage à pile ou face au téléphone, d'une certaine façon, ça semble impossible. Parce que celui qui va être à un bout du fil, bah, va pouvoir tricher. Il va pouvoir lancer la pièce, dire c'est pile, même si c'est face. Mmh. Voilà.
Donc, le verra
bon,
pas.
Voilà. Or, justement, les cryptologues se sont intéressés à la question et ils ont conçu des protocoles qui permettent de faire un tirage à pile ou face équitable. Personne ne peut tricher, ni celui qui détermine le résultat de la pièce, ni celui qui s'engage sur un résultat. Et ça permet de faire quelque chose qui est tout à fait intéressant, et c'est lié aussi d'ailleurs à l'économie qui tourne autour du Bitcoin. Ça permet de concevoir des jeux informatiques, des jeux internet, où la banque ne peut pas tricher. Alors, par exemple, vous voudriez aller sur un site internet où va y avoir un tirage à pile ou face, et puis vous allez engager votre argent, et puis le site internet va vous dire c'est pile, donc vous avez gagné, ou c'est pile, vous avez perdu, mais vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Mmh. Ben, on va mettre en place un protocole de ce type-là, trouvé par les cryptologues, et vous pourrez être certain que le site internet ne triche pas. Ça, c'est aussi un des aspects de la cryptologie. La cryptologie, c'est pas simplement la science qui permet de cacher les secrets, ou de signer des contrats ou des choses comme ça. C'est aussi une science qui permet donc de concevoir des monnaies, on l'a évoqué tout à l'heure, ou de concevoir des jeux équitables sur Internet ou par téléphone, etc. Donc la cryptologie, c'est quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on imagine souvent. Et les progrès qui ont été faits depuis 20, 30 ans, vraiment ont ouvert des tas de possibilités concernant des problèmes qu'on pensait insolubles.
Et concernant le hasard, problème que je ne sais pas si c'est insoluble, il n'y a pas de hasard en mathématiques. Vous dites aussi qu'il n'y a pas de hasard en géométrie.
Alors, en mathématiques, d'abord, y a certaines formes de
hasard. Parce qu'en même temps, il y a besoin de générer du hasard, justement, en cryptographie, où il y a besoin de générer du hasard.
Oui, alors, il existe toutes sortes de méthodes qu'on appelle les fonctions pseudo-aléatoires, qui engendrent des choses qui ressemblent beaucoup à du hasard, bien que ce soit des calculs qui soient parfaitement déterministes. Donc, a priori, il n'y a rien, mais seulement c'est fait d'une telle façon qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, sauf si on connaît tous les paramètres du générateur. Et donc, ça c'est quelque chose qui est très important en cryptographie aussi, donc vous voyez, c'est encore quelque chose qui n'est pas simplement du chiffrage simple, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez bien maîtrisé. Et alors, quand on parle du hasard géométrique, là, on se réfère plutôt, alors c'est un des chapitres du livre, on se réfère plutôt à la perception humaine du hasard. Et alors, il y a une expérience qui est faite, qui est très amusante. On demande à des gens de placer un point au hasard sur une feuille carrée. Et puis, plutôt, on leur demande d'en placer 5. Et puis, on prend 200 personnes. Et puis, on superpose toutes les paquets de 5 points des 200 personnes. Et ça fait 1000 points sur la feuille carrée. Et on s'aperçoit, aux surprises, que les points ne sont pas du tout répartis uniformément sur la feuille carrée. Mais que, par exemple, c'est le cas d'ailleurs, les axes, les diagonales sont surreprésentées. Il y a une sorte d'accumulation des points qui ont été choisis sur les diagonales, vers le centre aussi. Et donc, il y a une sorte de structure qui est finalement mentale,
de la part, structure humaine, notre structure humaine.
La structure humaine. Ou quand on demande à quelqu'un de placer des points au hasard, en fait, il ne sait pas placer des points au hasard. Et c'est quelque chose qui est bien connu en psychologie. Si vous demandez à quelqu'un de donner un nombre, un chiffre entre 0 et 9, eh bien, je crois que dans plus de 30% du cas, il va vous répondre 7. Donner un nombre au hasard entre 0 et 9, il va vous... Dans 30% des cas, il va vous répondre 7. Hein.
Autour de la question pourquoi tant de mystère en mathématiques, on écoute Mister Mystère, c'est M sur RFI.
Mister Mystère aime les vers au ciel de pierre. Mister Mystère kiffe la chair glaciale et claire. Mister Mystère aime l'éclair qui fend la terre. Mister Mystère a des posters de sa grand-mère. Mister Mystère. Tu gâtes Mister Mystère.
Sur RFI, Mister Mystère, autour de la question pourquoi tant de mystères en mathématiques et pourquoi tous ces mystères excitent et stimulent la créativité des chercheurs comme notre invité Jean-Paul Delahaye. Tout de suite, une nouvelle question pour vous, Jean-Paul Delahaye, posée par Mathieu Novak du mensuel Science et Avenir.
Est-ce que la notion de mystère, de questions non résolues et de l'importance de ces questions évolue au cours de l'histoire des mathématiques ?
Votre réponse, Jean-Paul Delahaye, il a fallu des siècles, hein, parfois, pour résoudre la quadrature du cercle.
Oui, alors, les mystères mathématiques, je pense, ont toujours eu de l'importance et en ont aujourd'hui. Est-ce qu'ils en ont plus aujourd'hui qu'autrefois ? Sauf dans le domaine de la cryptographie, qui est vraiment devenue une science majeure, et majeure au sens, elle a pris de la maturité. Je crois que non, les mystères ont toujours eu de l'importance en mathématiques, et aujourd'hui encore, donc il y a des conjectures qu'on considère comme centrales.
Des conjectures.
Alors une conjecture, c'est une affirmation mathématique dont on pense qu'elle est vraie. On a des bonnes raisons je vais en citer deux exemples, de penser qu'elles sont vraies et qu'on n'arrive pas à démontrer. Donc c'est ça qu'on appelle une conjecture en mathématiques. Alors j'en cite deux exemples à propos des nombres premiers. Donc les nombres premiers sont les nombres qui sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Et il y a une conjecture étonnante, incroyable, qu'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui, c'est qu'il existe une infinité de nombres premiers jumeaux. Donc de paires de nombres comme 11 et 13, ou 17 et 19, qui se suivent à deux unités d'un intervalle. Le fait qu'il existe une infinité de nombres premiers jumeaux, c'est quelque chose qu'on ne sait pas démontrer. Or, quand on va très loin dans le calcul des nombres premiers, on en trouve toujours. On a même une idée de la fréquence avec laquelle ces nombres premiers jumeaux apparaissent. On a une idée très précise. Mais on ne sait pas démontrer qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux. Ça reste un mystère depuis plusieurs centaines d'années.
Saura un jour, justement, est-ce que les mathématiciens réfléchissent ? Est-ce qu'il y a des limites, selon vous ? Des choses indémontrables, enfin qui le sont toujours, mais est-ce qu'elles le seront toujours, justement ?
Alors, les choses qui sont des conjectures à un moment donné peuvent devenir des théorèmes. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le grand théorème de Fermat, s'applique aux nombres premiers, est une propriété des nombres premiers. Pendant plus de trois siècles, on a considéré que c'était une conjecture et personne n'arrive à le démontrer. C'était extrêmement difficile. Des mathématiques vraiment très difficiles ont été développées qui en particulier, elles n'ont pas donné que ce résultat-là, ont permis de démontrer que cette conjecture de Fermat est devenu un théorème, de Weil-Fermat, puisque c'est Andrew Weil qui l'a démontré, qui a démontré la partie essentielle finale. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est que les choses qu'aujourd'hui on ne sait pas démontrer, on finira par les démontrer. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que d'une certaine façon, il n'y a pas de mystère absolu qui ne sera jamais démontré. Mais peut-être que certains nécessiteront plusieurs centaines, voire plusieurs millénaires.
Enfin, qu'on soit encore là pour arriver voilà. à les résoudre,
et
justement.
Et malheureusement, quand on saura résoudre les questions qu'on se pose aujourd'hui, il y en aura d'autres qui seront apparues qu'on ne saura pas résoudre.
Oui, c'est ça. Donc, il y aura toujours des mystères. Est-ce que la beauté, beaucoup de chercheurs en mathématiques parlent de la beauté des équations. Est-ce que la beauté, c'est une piste pour tenter justement de résoudre ces mystères?
Alors, les mathématiciens, quand ils raisonnent, quand ils pensent les objets mathématiques, ils ne pensent pas forcément en termes de démonstration. Il faut que je fasse ceci, puis après je vais pouvoir démontrer cela. Non, non, ils ont une idée, ils ont un ressenti des objets mathématiques, des propriétés qui ont des chances d'être vraies, qui sont probablement vraies, qui sont certainement vraies, etc. Et c'est souvent lié à une sorte de perception esthétique de ces objets mathématiques et de leurs relations entre elles. Certaines relations entre objets sont trop belles pour ne pas être vraies. Il y a des mathématiciens qui disent ça. Et donc, non, ça, c'est pas possible que ce soit pas vrai, puisque c'est vrai dans tel cas. Et puis, c'est tellement simple, tellement beau, ça doit certainement être
c'est
vrai.
C'est tellement simple, la simplicité aussi, alors que c'est très complexe, mais c'est la simplicité aussi.
Bien sûr, il y a des critères simples. Le théorème que j'évoquais tout à l'heure, la conjecture que j'évoquais sur les nombres premiers jumeaux, elle est simple. Bon, donc, elle séduit et du coup, on s'y intéresse et ça fait partie de ce qu'on considère comme la beauté des mathématiques, ce type de propriété. Mais il y en a bien d'autres, il y a bien d'autres choses que les mathématiciens qualifient de beau.
Autour de la beauté, justement, dernière question pour vous, posée par un planétologue, Olivier Mouzis, qui était récemment notre invité.
Le nombre d'or, pourquoi est-il le numéro favori des architectes ?
Le nombre d'or,
alors,
Jean-Paul Delay.
Oui, alors le nombre d'or, c'est un nom qui est lié à racine de 3. C'est un nombre qui apparaît en géométrie, très naturellement. Par exemple, si vous dessinez une étoile à 5 branches, vous allez voir apparaître le nombre d'or. J'ai dit racine de 3, je voulais dire racine de 5. Et vous allez voir apparaître le nombre d'or. Si vous considérez les polyèdres réguliers, les 5 polyèdres réguliers de Platon, vous allez avoir dans au moins 2 d'entre eux apparaître le nombre d'or. Donc c'est quelque chose qui apparaît naturellement en géométrie. Alors après, il y a une sorte de mystique qui est parfois presque de la numérologie, qui est associée au nombre d'or. On pense que les cadres qui ont une longueur et une largeur qui sont dans le rapport du nombre d'or vont être plus beaux. Les études qui ont été faites sur les cadres qui sont choisis naturellement par les peintres pour faire leur peinture montrent que ça n'est pas vrai. Voilà. Donc, il y a une sorte d'excès.
On en fait un peu trop, peut-être,
voilà,
autour
on en fait
du
un
nombre
peu trop
d'or.
Et tout ce qu'on dit sur le nombre d'or n'est pas attesté réellement. Et les propriétés esthétiques du nombre d'or, bon, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai et c'est pas une règle et c'est pas un moyen sûr de construire du beau que d'utiliser le nombre d'or. C'est un peu une illusion. En utilisant racine de 2 ou racine de 3, ça serait aussi bien.
Donc, se méfier aussi de ces mystères ou de ces tentation d'aller trop vite par rapport aux chiffres, par rapport aux nombres, par rapport à la beauté. Enfin, il faut rester dans un mystère, mais le prendre de manière scientifique.
Oui, par exemple, concernant le nombre d'or, revenons-y, il ne fait aucun doute que c'est un nombre un petit peu comme pi qu'on retrouve dans beaucoup de situations mathématiques. Ça ne fait aucun doute. Il a des propriétés mathématiques, une sorte d'ubiguïté qui fait qu'on le retrouve dans une formule et dans une autre. Maintenant, de là à en déduire que parce qu'on va utiliser le nombre d'or pour construire une cathédrale ou le Parthénon, etc., ça va faire quelque chose qui est plus joli, ça c'est une illusion. Et par exemple, justement, à propos du Parthénon, on dit que les proportions du Parthénon sont liées au nombre d'or. C'est une construction qui est fausse. Les architectes grecs n'utilisaient pas le nombre d'or, ils utilisaient plutôt des proportions qui sont des nombres entiers. Et rien de sérieux ne permet de dire que le nombre d'or soit dans le Parthénon.
Merci infiniment d'être venu nous donner toutes ces précisions en direct, Jean-Paul Delahaye, et partager avec nous tous ces mystères, parfaits ou imparfaits, mathématiques et mystères. C'est le titre de votre dernier ouvrage qui vient de paraître aux éditions Belin et à suivre bien sûr votre rubrique logique et calcul chaque mois dans le magazine Pour la Science. Merci à vous et vous revenez quand vous voulez.
Merci.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Demain, comme tous les vendredis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez à ce micro, amis auditeurs. Quant à nous, Apolline Vernon-Raison à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski, nous vous donnons rendez-vous lundi pour de nouvelles interrogations à partager ensemble. D'ici là, portez-vous bien, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur la Radio Mondiale. L'atelier.